Chapitre 5. Dans le Valhalla britannique. Ils avaient discuté sur les chambres de leur nouvelle demeure, sur les toilettes des demoiselles d'honneur, sur la cuisine que ferait Maud, sur les cadeaux de mariage, sur les mérites de Brighton, sur la nature de l'amour, sur le lancement à toute volée au tennis, Maud étant championne d'un club de tennis, sur les abonnements de saison et sur la destinée de l'univers, sans parler d'une petite bouteille de Perrier joué. C'était une chose d'une extravagance répréhensible, mais enfin, il s'agissait de leur dernière sortie de fiancée. Aussi burent-ils aux jours charmants du passé et aux jours plus charmants encore de l'avenir. En bons camarades qu'ils étaient, ils causèrent sans embarras et gaiement. Franck ne commit pas la maladresse courante de laisser tomber la conversation, et Maud justifia sa confiance en ripostant vivement, mais tous deux préféraient le silence aux menus propos de convention. « Nous irons au tennis aussitôt après déjeuner, » dit Franck en payant l'addition. « Vous n'avez pas vu les Australiens, n'est-ce pas ?»«
Si, mon chéri, je les ai vus il y a 4 ans à Clifton. » »«
Mais c'est une équipe nouvelle. Il y en a 9 de l'équipe actuelle qui n'ont jamais joué en Angleterre. »
« Ils sont très forts, n'est-ce pas ?»«
Merveilleux, c'est vrai, et la sécheresse de l'été les a favorisés. Ce sont nos barres anglaises si gluantes qui les avaient gênés jusqu'ici. Les barres sont très fermes par ici. Giffen est le meilleur roundman, mais Darling et Iredale et le jeune Hill seraient bons partout. Eh bien, ensuite ?»«
Dieu, quel dommage !»
En se levant, il s'était tourné vers la fenêtre et eut une de ces petites surprises dont la nature se sert pour rompre la monotonie de l'existence dans nos îles. Le soleil avait disparu. Un nuage ardoisé, aux contours effilochés, montait du fleuve. La pluie tombait avec ce doux entêtement qui est plus redoutable que l'averse la plus tapageuse. Il n'était plus question de cricket pour ce jour-là.
« Deux cafés et 2 bénédictines !» cria Franck.
Et ils retombèrent sur leurs chaises. Mais une demi-heure se passa. Le nuage gris s'épaississait, la pluie prenait de la force. Le fleuve mélancolique, plombé, roulait lentement ses flots sous un ciel chargé. Au-delà d'une vaste étendue de pavés luisants, la grande abbaye toute noire se dressait dans l'orage. « Avez-vous jamais visité l'abbaye, Maud ?»
« Non, Franck, et j'aimerais le faire. »«
Je ne l'ai vu qu'une fois et je l'avoue à ma honte. N'est-ce pas un crime pour nous autres, jeunes Anglais, de connaître jusqu'au moindre music-hall et d'en savoir si peu sur ce qui forme le centre de la race anglaise, sur le monument le plus auguste, le plus terrible qu'ait jamais possédé une nation ? Il y a 600 ans, les Anglais le regardaient comme leur sanctuaire le plus saint, le plus national. » Depuis ce temps, nos rois, nos guerriers, nos penseurs et nos poètes y ont tous été inhumés. Ils ont fini par y former une accumulation telle que cette immense abbaye a juste assez d'espace pour y placer un autre monument. Passons-y 1 heure. Ils se dirigèrent vers le portique de Salomon parce qu'il était le plus rapproché et qu'il n'avait qu'un parapluie. Sous cet abri, ils se séchèrent avant d'entrer.
À qui appartient l'abbaye, Franck ?
À vous et à moi.
Voilà que vous plaisantez.
Pas du tout. À la longue, elle finit par appartenir aux contribuables britanniques. Vous avez entendu raconter le mot de l'Écossais qui veut visiter un de nos vaisseaux de ligne et demanda à voir le capitaine.
Qui dois-je annoncer ? Demanda l'homme de planton.
Un des propriétaires, répondit l'Écossais. Telle est notre position vis-à-vis de l'abbaye. « Allons inspecter notre propriété. » Ils souriaient en entrant, mais le sourire s'éteignit sur leurs lèvres quand la porte se fut refermée derrière eux. Dans ce saint des saints, dans ce sanctuaire intime de la race, il régnait une atmosphère de sereine solennité, pleine de dignité, capable d'agir même sur l'être le plus irréfléchi. Franck et Maud restèrent immobiles, muets, respectueux. Les hautes arcades se dressaient en longues files de chaque côté d'eux, droites et élancées comme de beaux arbres, jusqu'à l'origine de la courbe qu'elles décrivaient pour atteindre la galerie,
puis rejoindre les courbes jumelles pour former des nervures de pierre de la plus grande légèreté dans leur délicatesse. Devant eux, une grande verrière en forme de rose, de vitraux multicolores, au pourpre, au cramoisi d'une richesse splendide, laissait passer un jour adouci, religieux. Ça et là, dans les ailes, allait et venait parmi les ombres un petit nombre de visiteurs, mais de tous côtés, le long des murs, sur deux et trois rangs, étaient alignés les morts illustres, leurs corps périssables, à l'abri sous le marbre durable où était gravé le nom plus durable encore. Il régnait un grand silence dans cette demeure des morts. On n'entendait qu'à de longs intervalles un bruit de pas lointain, un chuchotement de voix. Maud s'agenouilla, la figure entre ses mains. Franck pria aussi, mais de cette façon de prier qui est plutôt un sentiment qu'une expression. Puis ils se mirent à faire le tour du court transept où ils se trouvaient. C'était la partie de l'abbaye réservée aux grands hommes d'État. Franck voulut citer le passage où Macaulay parle des hommes usés par le surmenage et la lutte dans l'édifice du Parlement voisin et qui viennent ici chercher la paix et le repos. Ici se trouvaient les hommes qui avaient été assez énergiques pour tenir la barre du gouvernail et qui, les uns avec sagesse, les autres avec folie, mais tous avec probité, avaient lutté pour maintenir debout, sous le vent, le vieux navire. Il y avait là Canning et Pell, Pitt, Fox, Grattan, Beaconsfield. Gouvernements et oppositions se réduisent en poussière derrière les murs. Beaconsfield, seul parmi les statues, présentait les traits fortement saillants de l'homme qui est le fils de ses œuvres. Les autres avaient des mines si rebondies, si arrondies, qu'on avait peine à se rendre compte de leur énergie, mais ils appartenaient à ces classes dirigeantes qui héritent sans peine de l'énergie. Franck conta à Maud le peu qu'il savait sur chacun d'eux, sur Grattan, le plus noble des Irlandais qui fut là, sur Castlereagh, dont le cercueil fut poursuivi jusqu'aux portes de l'abbaye par une foule furieuse qui voulait mettre son cadavre en morceaux, sur Fox, le philosophe libre-penseur, sur Palmerston, le vaillant sportsman qui continua longtemps à se promener à cheval quand il fut devenu incapable de marcher. Ils s'étonnèrent ensemble du réalisme qui avait troué de marques de petites véroles la figure de l'amiral Warren et de l'absurdité du sculpteur qui avait affublé Robert Peel d'une toge romaine. Ils tournèrent à droite en sortant du transept des hommes d'État pour errer sans but par la vaste nef. On se sentait accablé par l'effet grandiose de la voûte et par les objets qui se trouvaient au-dessous d'elle. Il n'en était pas un parmi les centaines de monuments qui ne valut un pieux pèlerinage, mais comment élever son âme assez haut pour les apprécier dignement? Il y avait là Darwin qui fit une révolution en zoologie, et Isaac Newton, qui imprima une direction nouvelle à l'astronomie. Il y avait là le vieux Ben Jonson et Stephenson, le père des chemins de fer, et Livingstone l'Africain, et Woodworth, et Kingsley, et Arnold. Il y avait là les soldats de l'insurrection, Clyde et Outrance, et Lawrence, et des peintres, et des écrivains, et des chirurgiens, et tous les bons fils qui avaient, dans leur carrière respective, bien servi la vieille mère. Et lorsqu'ils avaient achevé leur tâche, la vieille mère avait étendu ses longs bras pour les ramener au pays, et pour chacun de ses bons fils qu'elle avait ramenés au foyer, elle en avait envoyé au loin un autre. Elle avait les reins toujours féconds et des enfants affectueux et fidèles. Allez à l'abbaye, et sous l'impression que vous fera le passé de la nation, vous n'aurez rien à craindre pour son avenir. Franck fut charmé de quelques-uns des monuments. Il fut épouvanté à la vue de quelques autres. Il fit également part de sa joie et de sa colère à Maud. Ils remarquèrent ensemble l'analogie de traits qui existe entre les types modernes et ceux du temps d'Élisabeth, leur coupe de cheveux, leur goût en fait de monument, malgré la séparation que créent en eux les affectations insupportables qui atteignent leur point culminant vers la fin du siècle dernier. Tout sonne faux, statues, inscriptions, tout, dit Franck. Les insupportables groupes allégoriques qui se roulent à terre autour d'un héros défunt appartiennent à la même classe que la prose pompeuse et enflée du docteur Johnson. Les plus grands effets sont les effets les plus simples. Il en fut, il en sera toujours ainsi. Mais ce petit bout de latin est propre à produire de l'effet, je le reconnais. » C'était une inscription presque effacée au-dessous d'une statue du temps d'Élisabeth. Les pieds avaient été brisés et les traits étaient devenus méconnaissables. Deux mots de l'inscription avaient attiré le regard de Franck. « Messissima Uxor. » Ce fut son épouse très désolée qui l'éleva. « Regardez-le maintenant, ce pauvre monument, si dégradé de l'amour d'une femme. » « Maintenant, Maude, venez avec moi et nous visiterons le fameux coin des poètes. » Quelle réunion ce serait si, dans un jour solennel, chacun pouvait surgir de sa tombe. Tennyson, le dernier et peut-être le plus grand de cette illustre lignée, gît sous la dalle blanche du sol. Maude et Franck s'arrêtèrent près d'elle avec respect. Coucher du soleil et étoile du soir et un vivant appel pour moi, cita Franck. Comme il est naturel qu'un vieillard ait écrit ses vers. Je lui assignerai son rang immédiatement après Shakespeare si j'avais charge de les classer. J'ai si peu lu, dit Maude. Nous lirons tout cela ensemble après la semaine prochaine. Mais votre lecture acquiert un caractère bien plus réel, plus intime, quand vous êtes resté un instant près de la tombe de l'écrivain. Voici Chaucer, cette grosse tombe ici. C'est le père de la poésie anglaise. Voici Browning, à côté de Tennyson, unis dans la vie et dans la mort. C'était un penseur plus profond, mais la musique et la forme ne sont pas moins essentielles. « Quelle figure splendide !» s'écria Maude. C'est le buste consacré à Longfellow, l'Américain. Ils lurent l'inscription. Ce buste fut placé parmi les monuments des poètes d'Angleterre par les admirateurs anglais d'un poète américain. « Que je suis contente d'avoir vu cela! Je connais si bien ces poésies !» dit Maude. « Je crois que c'est le poète qui a le plus de lecteurs en Angleterre. Quelle est cette figure debout ?»« C'est Dryden. Quelle physionomie intelligente et quel type moderne !»« Voici Walter Scott à côté de la porte. » Comme il avait l'air indulgent et humoristique. Et voyez quelle hauteur à sa tête, de l'oreille au sommet. C'était un fort cerveau. Voici Burns, l'autre Écossais fameux. Ne trouvez-vous pas une ressemblance entre les figures? Puis voici Dickens et Thackeray et Macaulay. Je me demande si Macaulay, en écrivant ses essais, avait le pressentiment qu'il serait enseveli dans l'abbaye de Westminster. Il fait des allusions constantes à l'abbaye et à ses tombes. Je me dis toujours que nous avons une grande intuition de ce qui arrivera dans notre vie. Nous pouvons deviner ce qui est probable. Nous allons plus loin que cela. Dès le premier jour où je vous vis, j'eus l'intuition que je vous épouserais, et pourtant cela ne semblait pas probable. Mais au plus profond de mon âme, je sus que je vous épouserais. Je savais que je vous épouserais, Franck, ou que je ne me marierais jamais. Eh bien, alors, nous l'avons su tous deux. Ah, voilà qui est vraiment merveilleux. Il s'était arrêté parmi les monuments de tous ces grands hommes et s'extasiait devant les mystères de leurs humbles existences quand une voix s'élevant près d'eux les ramena au présent. Par ici, s'il vous plaît, pour les rois, dit la voix. On part pour les rois. On se composait d'un petit groupe singulièrement hétérogène de gens qui attendaient à l'entrée de la grille l'arrivée du guide officiel. C'était un homme de haute taille, à barbe rousse, à l'accent très écossais, avec sa petite femme fort douce, puis un père américain et ses deux filles, vives, enthousiastes, un jeune officier de marine en uniforme, deux jeunes gens à qui les jeunes américaines causaient de cruelles distractions, puis une douzaine d'autres voyageurs de différents sexes et âges. Au moment même où Maud et Franck se joignirent à eux, le guide, un jeune homme à figure fraîche, arriva à grands pas et l'on franchit l'entrée de l'enceinte réservée aux sépultures royales. « Par ici, mesdames et messieurs !» cria le guide d'une voix pressée et tout le monde s'avança à grand bruit de pas sur les dalles. Il s'arrêta près d'une tombe sur laquelle était représentée, étendue, une dame aux traits mélancoliques et fatigués. « Marie, reine d'Écosse, dit-il, la plus grande beauté de son temps. Ce monument fut élevé par son fils, Jacques Ier. »
« N'est-ce pas qu'elle est absolument charmante ?» dit une des jeunes Américaines.
« Eh bien, je ne sais pas. Je m'attendais à la trouver mieux que cela, » répondit l'autre.
« Je suppose, fit remarquer le père, que si vous deviez passer par les mêmes épreuves que cette princesse, il ne resterait pas grand-chose de votre beauté. Mais quel âge pouvait avoir la reine d'Écosse, monsieur ?»«
Elle avait 44 ans à l'époque de son exécution. »
« Eh bien, elle paraît jeune pour son âge, » murmura l'Écossais. Et le groupe se déplaça. Franck et Maud restèrent en arrière pour considérer encore un peu la malheureuse princesse, brillant papillon de France, égarée loin de la lumière et de la chaleur dans ce pays farouche, terre de sang et de psaumes. « Elle avait un corps de fer avec toute sa grâce et sa douceur, » dit Franck. « Elle fit une chevauchée de 80 milles, presque sans lâcher les rênes, après la bataille de Langside.
« Elle a l'air bien fatiguée, la pauvre femme, » dit Maud. « Je crois qu'elle ne fut pas fâchée de trouver le repos. »
Le guide était en train d'énumérer les noms de ceux qui occupaient les tombes à l'autre bout de la chapelle. « La reine Anne est ici, ainsi que Marie, la femme de Guillaume III, tout près d'elle. Et voici Guillaume lui-même. » Le roi était très petit et la reine très grande, en sorte que, dans les bas-reliefs, le roi est représenté debout sur un tabouret afin que leurs têtes soient à la même hauteur. Dans les souterrains, par là-bas, il y a 38 stuarts. 38 stuarts, princes, évêques, généraux, autrefois le sel de la terre, les plus puissants des hommes, et maintenant expédiés en un tas, avec insouciance, par ces mots de 38 stuarts. Ainsi, la mort républicaine et le temps radical savent précipiter le plus élevé à bas de son trône. On avait suivi le guide dans une autre petite chapelle qui portait le nom d'Henri VII inscrit sur la porte. Assurément, dans ce temps-là, les princes étaient de grands bâtisseurs qui projetaient grandement. La pierre eût été une matière flexible comme la cire qu'on ne l'eût pas mieux pétrie, contournée en spirale, en courbe, en plis exquis, si légers, si délicats, si beaux, si compliqués dans leurs enlacements sur les murs, dans les guirlandes qui descendaient du plafond. Jamais la main de l'homme ne créa rien de mieux travaillé en ornementation, jamais cerveau humain ne conçut un dessin plus achevé dans son harmonie et dans son charme. Au centre, dans la pompe des armoiries médiévales, couvertes des étoiles et des bandes qui formaient les armes des Tudors, les deux figures en bronze d'Henri et de sa femme étaient allongées côte à côte sur leur tombe. Le guide lut à haute voix les originales volontés écrites par le roi dans son testament, où il donnait l'ordre qu'on les inhumât, en ayant quelque égard pour leur royale dignité, mais en évitant la pompe condamnable et les superfluités choquantes. Il y avait, comme le fit remarquer Franck, un joli trait de la violence de sang des Tudors dans ses adjectifs. On devinait sans peine de qui Henri VIII tenait son caractère impérieux. Et cependant, la figure tombale, qui avait les yeux tournés en haut, avait une expression ascétique, un caractère de prêtre. On passa près des tombes violées de Cromwell, de Blake, d'Ayrton, revanche méprisable de gens qui n'avaient pas osé les affronter sur le champ de bataille. On remarqua la tombe de Jacques Ier, qui se l'était élevé à lui-même et qui justifia dans sa mort la renommée de philosophe qu'il avait ambitionné pendant sa vie. Puis on considéra la vaste tombe de Villiers, duc de Buckingham, aussi étonnante, aussi magnifique que son histoire. On jeta un regard sur ceux qui cachaient les restes du courageux petit Georges II, le dernier des rois d'Angleterre, qui ait conduit son armée à la bataille. Ensuite, on se remit en route pour voir le coin des Innocents où reposent les grêles ossements des pauvres enfants assassinés dans la tour. Mais à ce moment, le guide avait groupé de nouveau autour de lui son petit troupeau, de l'air d'un homme qui possède un renseignement qu'il ne faut pas laisser perdre. « Vous vous placerez debout sur la marche pour voir le profil, » dit-il en montrant une statue de femme sur une tombe. « C'est la grande reine Élisabeth. » Ce profil et cette face valaient la peine d'être vus. C'était la figure d'une reine qui méritait d'avoir sur terre des Shakespeare et sur mer des Drake. Si le roi espagnol l'avait vue, il aurait compris qu'il n'était pas prudent de l'attaquer, cette vieille et farouche dame au profil d'aigle, aux lèvres de fer. Il était facile de deviner de quelle poigne elle tenait son livre de comptes. On s'expliquait sa dureté envers ses amants, on se figurait la confiance qu'elle inspirait à son peuple. On lisait sans peine tout cela sur cette merveilleuse figure. « Elle est splendide, » dit Franck. « Elle est terrible, » dit Maud. « J'ai cru comprendre, d'après vos paroles, » dit l'Américain, « que c'était cette dame qui a décapité l'autre dame, la reine d'Écosse, celle que nous avons vue dans l'autre compartiment. »« Oui, monsieur, c'est elle. » « Eh bien, je trouve que du moment qu'il s'agissait de couper une tête, c'était bien cette dame qu'il fallait pour que la chose fût faite promptement, sans retard. Ce n'était pas une dame mariée, à ce que je crois savoir. »« Non, monsieur. Et ce fut bien heureux pour quelqu'un. Le mari de cette femme-là aurait passé de vilains moments, monsieur. C'est mon opinion. »« Chut, papa !» disent les deux jeunes filles. Et le cortège se remit en marche. On entrait dans la chapelle la plus intérieure, la plus ancienne, la plus sainte, celle où, parmi les anciens rois plantagenets, repose cet antique monarque saxon, confesseur et saint canonisé, saint Édouard, dont le corps entouré d'honneur a servi de point de départ à ce grand sanctuaire qui s'est élevé graduellement autour de lui. C'est un singulier monument, jadis revêtu d'une mosaïque, mais maintenant nu, dépouillé, qui se dresse au centre. Le corps d'Édouard le Confesseur est dans un cercueil au haut, dit le guide. Ce creux au-dessous était rempli de précieuses reliques et les pèlerins avaient coutume de s'agenouiller dans ces niches qui sont juste assez grandes pour contenir un homme à genoux. Le travail en mosaïque a été enlevé par les pèlerins. « De quelle époque date le sanctuaire ?» demanda Franck. « Environ de l'année 1250, monsieur. Les anciens rois se faisaient ensevelir aussi près que possible de lui. En ce temps-là, ils croyaient que le diable pouvait emporter leur corps. Aussi, plus ils étaient près du saint, plus ils se jugeaient en sûreté. Henri V, qui remporta la victoire d'Azincourt, est là. Voici le casque, le bouclier et la selle même qui lui servirent alors sur cette solive transversale. Le roi, la figure grave et barbue, et Édouard III, le père du prince noir. Le prince noir ne vécut pas assez pour monter sur le trône, mais il fut le père de l'infortuné Richard II qui repose ici. C'est ce roi rasé de près, avec des traits si prononcés. « Maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez vous diriger de ce côté, je vais vous montrer un des objets les plus remarquables de l'abbaye. » L'objet en question n'avait pour toute singularité que d'être un cube de pierre placé sous un vieux siège. Mais quand le guide eut ajouté quelques mots, on sentit qu'il avait rempli sa promesse. Voici la pierre sacrée de Scone, sur laquelle furent couronnés depuis un temps immémorial les rois d'Écosse. Lorsqu'Édouard Ier envahit l'Écosse, il y a 600 ans, il la fit transporter ici, et depuis lors, tous les monarques anglais s'y sont assis lors de leur couronnement. « Et la reine Victoria ?» demanda quelqu'un. « Oui, elle aussi. D'après la légende, ce serait la pierre sur laquelle Jacob reposa sa tête lors de son rêve, mais les géologues ont prouvé que c'est du grès rouge d'Écosse. » « Alors je vois, monsieur, que cet autre trône est le trône d'Écosse, » dit le gentleman américain. « Non, monsieur, le trône anglais et le trône écossais n'en font qu'un. Mais au temps de Guillaume et de Marie, il fallut la couronner aussi bien que lui, et on eut ainsi besoin d'un second trône. Naturellement, ce dernier fut moderne. Il n'y a qu'un couple de siècles. Je m'étonne qu'on l'ait laissé là. Mais je trouve qu'on aurait pu le surveiller davantage. » Quelqu'un y a gravé son nom. Un écolier de Westminster paria avec ses condisciples qu'il y passerait la nuit parmi les tombes et pour prouver qu'il l'avait fait, il grava son nom sur le trône. « Vraiment, dites-vous ? » s'écria l'Américain. « Eh bien, je suis sûr que ce garçon-là a fini par monter très haut. »« À la hauteur de la potence, peut-être, » dit Frank, ce qui fit rire tout le monde. Mais le guide reprit d'un air grave, en homme responsable de la dignité de l'abbaye.
Cette tombe est celle de la reine Éléonore. »
Franck tira Maud par la manche. « Éléonore de Charing Cross, dit-il. Voyez-vous comme ces petits bouts d'histoire s'ajustent les uns aux autres ?
Et voici la tombe de son mari, Édouard Ier. C'est lui qui rapporta la pierre de Scone. Au temps de sa mort, la conquête de l'Écosse était presque achevée et il donna l'ordre de ne lui faire qu'une tombe provisoire jusqu'au jour où l'Écosse serait complètement soumise. Il est encore, comme vous le voyez, dans une tombe provisoire. »
Le gros Écossais partit d'un éclat de rire bruyant et moqueur. Tous les autres jetèrent sur lui ce regard attristé de pitié que les Anglais affectent à l'égard des autres peuples, plus démonstratifs quand l'émotion les domine. Un jet d'eau, lancé par une pompe de jardin, ne l'eût pas mieux refroidi.
Pendant le siècle dernier, on ouvrit la tombe, dit le guide, et on y trouva une inscription disant « Sigil, le marteau des Écossais ». C'était un bel homme qui avait une taille de 6 pieds 2 pouces, de la plante des pieds au haut de la tête. On quitta enfin le vieux sanctuaire où les grands rois plantagenets forment comme une garde du corps autour du saint saxon. On passa à côté de tombes d'abbés, de croisées défunts qui avaient les jambes croisées l'une sur l'autre, et un instant plus tard, on se trouva dans un milieu relativement moderne.
Voilà la tombe de Wolfe qui mourut sur les hauteurs d'Abraham, dit le guide. C'est grâce à lui et à ses soldats que l'Amérique entière appartient aux races de langue anglaise. Voici une scène qui représente les Highlanders allant au combat par le sentier tortueux qui part de la baie de Wolfe. Il mourut au moment de la victoire.
On était tout étourdis de se sentir ainsi jeté d'un siècle à l'autre.
L'histoire d'Angleterre paraissait faite d'événements non point successifs, mais simultanés, car on passait en un instant de l'époque des Georges à celle d'Élisabeth, avec ses monuments aussi bien conservés les uns que les autres. On passa près de l'imposante de verre, dont l'armure était placée par pièces détachées sur une dalle de marbre, pour montrer qu'il était mort en paix avec tous les hommes. On vit la terrible statue qui représente l'attaque de la mort, statue qui, vue au clair de lune, obligea un voleur de minuit à laisser tomber son butin et à s'enfuir de l'abbaye en proie à une terreur panique. C'est un objet à la fois si effrayant et si fascinant que les pas traînants du groupe de curieux avaient cessé de se faire entendre avant que Maud et Franck pussent s'en arracher. À la base de la statue se trouve une porte de fer ouverte. L'art du sculpteur a réussi merveilleusement à vous donner l'illusion que cette porte a été ouverte avec violence. Les deux battants ont l'air de vibrer encore sous le choc et l'on croit presque entendre le son métallique dans toute sa dureté. Par l'ouverture noire s'est élancé un être terrible, un je ne sais quoi enveloppé d'un linceul et qui, d'une main osseuse, s'agrippe au piédestal pendant que l'autre est levé pour lancer un dard sur la femme qu'il supporte. Celle-ci, une jeune mariée de 27 ans, est tombée défaillante pendant que son mari, l'horreur peinte sur ses traits, se penche en avant, la main étendue, pour se jeter entre sa femme et son hideux agresseur.
« J'en rêverai, » dit Maud qui avait pâli, ainsi que cela arriva à plus d'une femme devant ce monument.
« C'est terrible !» Franck recula de quelques pas, hors d'état d'en détourner les yeux. Quelle hardiesse a montré le sculpteur. C'est un effet qui doit être risible ou grandiose, et il est arrivé au grandiose.
Il se nomme Roubilliac, dit Maud, le lisant sur le piédestal.
Un Français ou un homme d'origine française, n'est-ce pas caractéristique? Dans toute la vaste abbaye, le seul monument qui nous ait fait l'impression d'une œuvre de génie et d'imagination est dû à un étranger. Nous n'avons pas ce don. Nous avons trop peur de nous laisser aller, de nous abandonner à nous-mêmes. Nous avons de la lourdeur dans la main et dans l'esprit.
Si nous ne sommes pas en état de produire les monuments, nous savons produire les hommes qui les méritent, dit Maud.
Et Franck s'empressa de noter cet aphorisme sur sa manchette.
Nous sommes trop austères, tant en sculpture qu'en architecture, dit-il. Plus de fantaisie et de vigueur chez nos sculpteurs, un emploi plus large de l'or et du pur ornement chez nos architectes, voilà ce qui nous manque. Mais je pense qu'il n'est plus temps de réclamer ces dons. Il vaudrait mieux établir dans le monde la division du travail conformément aux aptitudes des diverses nations. Que l'Italie et la France nous embellissent. Organiser les colonies françaises, peut-être, ou bien le trésor italien. C'est la besogne qui nous revient de droit, mais nous ne nous tirerons jamais de l'autre. Le guide était déjà arrivé au bout de sa tournée, une porte de fer symétrique avec celle par où on était entré. On le rejoignit, comme il attendait avec impatience, en balançant ses clés. Mais quand Maud passa devant lui avec un sourire et quelques mots de remerciement, la satisfaction reparut sur sa figure. Un rayon de sourire vivant est bienvenu pour l'homme qui passe ses journées parmi les tombes. On traversa le transept du Nord et on sortit par le portique de Salomon. Le nuage chargé de pluie avait disparu. Le soleil d'été éclairait les rues humides et changeait tout en or. On aurait pu se croire dans ce Londres enchanté dont rêvait le jeune Whittington. Devant eux s'étendaient des pelouses d'un vert vif avec des gouttelettes d'eau que le soleil faisait étinceler sur l'herbe. L'air était plein du pépiment des moineaux. Au-delà de cette vision, depuis l'extrémité de Whitehall jusqu'à Victoria Street, le noir ruban de la circulation décrivait ses courbes, ses cercles, en formant une des grandes ceintures de l'énorme cité. Et au-dessus de tout cela, à leur droite, surgissaient ces magnifiques édifices du Parlement, dont la seule vue faisait repentir Frank de ses paroles amères à l'égard de l'architecture anglaise. Ils restèrent sous le porche antique à contempler le tableau. C'était si merveilleux de voir que d'un seul pas, on allait du grand pays d'autrefois au pays d'aujourd'hui, plus grand encore. C'était bien pour construire cette chose-là que ces défunts avaient vécu et étaient morts. « Il n'est guère plus de 3 heures, dit Franck. C'était un endroit bien sombre à vous montrer. Grand Dieu, nous avons un jour à passer ensemble et je vous mène dans un cimetière. Irons-nous à une matinée pour réagir ?» Mais Maud lui mit la main sur le bras. « Je ne crois pas, Franck, avoir jamais été plus fortement ému, en avoir appris davantage en aussi peu de temps. Ce fut une heure grandiose, une heure qu'on n'oublie jamais. Et il ne faut pas vous figurer que je sois avec vous uniquement pour être amusé. Je suis avec vous pour vous tenir compagnie toutes les fois que vous êtes dans vos dispositions les plus nobles, les plus élevées. » Maintenant, avant que nous quittions cette chère vieille abbaye, promettez-moi que vous chercherez toujours dans votre vie ce qu'il y a de plus haut et que vous ne vous abaisserez jamais jusqu'à moi. Je puis vous promettre, sans courir aucun risque, que je ne descendrai jamais jusqu'à vous, dit Franck. Je passerai toute ma vie à monter, qu'il y aurait encore en votre âme des endroits qui seront pour moi comme des pics neigeux perdus dans les nuages. Mais vous serez toujours, comme en ce moment, ma bonne chère camarade, ma charmante femme. Et maintenant, Maud, que faisons-nous? Allons-nous au théâtre ou voir les Australiens? Tenez-vous beaucoup à l'un ou à l'autre? Non, à moins que vous ne le désiriez. Eh bien, alors, il me semble que l'un ou l'autre serait une profanation. Promenons-nous ensemble le long du quai. « Asseyons-nous sur un des bancs que voici et regardons le fleuve s'écouler au soleil en causant et réfléchissant sur tout ce que nous avons vu. »